Cours d'éthique par le Père Philippe à Saint-Judard, le 29 novembre 89.
Petite question. L'autre jour, en faisant un tableau des parties de la philosophie, au cours de philosophie de l'art, vous n'avez rien, vous avez placé la philosophie politique comme étant en lien avec l'éthique humaine et l'éthique religieuse. Pourriez-vous expliquer un peu pourquoi? Et ça, on le verra, pas tout de suite. On le verra quand nous serons dans l'éthique religieuse, j'aime mieux ça, ou au terme de cette partie de l'éthique, pas tout de suite. Je continue. Nous avions vu la nécessité des vertus, de la naissance des vertus. Pourquoi les vertus? Parce que c'est pas très agréable dans notre monde d'aujourd'hui. C'est vrai. Il y a des siècles où les vertus apparaissent magnifiquement. Oui, il me porte les vertus, c'est bien. C'est la liturgie des vertus. Merci beaucoup. XVIIe siècle, par exemple. Les vertus prennent une place énorme chez les stoïciens. Jésus parle qu'il faut être parfait comme le Père Céleste est parfait. Là, il résume tout. La loi a été donnée pour qu'on soit vertueux, pour qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Et quand on reconnaît qu'on est pécheur, on désire en sortir, se convertir et commencer à acquérir la vertu. Mais ça, c'est éthique chrétienne. En éthique proprement philosophique, humaine, c'est pour sauvegarder en nous la capacité d'aimer et de l'amour d'amitié, des liens humains. Il est nécessaire d'acquérir les vertus à cause de la propension énorme de l'imaginaire. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Alors là, je crois qu'il faut être très attentif à ça. L'imaginaire, c'est très bon, l'imagination. Mais l'imaginaire a une espèce de capacité extraordinaire de tout envahir et de nous empêcher d'être des êtres spirituels, d'empêcher l'intelligence pratique de pouvoir s'exercer comme elle doit s'exercer. Ça, c'est très net. L'imaginaire nous replie sur notre conditionnement. Nous verrons en philosophie du vivant ce qu'est l'imaginaire. On l'a déjà commencé. Ça nous replie sur notre conditionnement. Au point de vue moral, c'est l'ennemi numéro un. Puisque c'est la perte de la finalité. Comment, de fait, notre monde d'aujourd'hui a complètement perdu le sens de la finalité. Les jeunes le retrouvent. Mais quand vous voyez des gens de 55 ans, 60 ans, ils ont perdu le sens de la finalité. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils vivent dans le conditionnement. C'est pour ça que la psychologie a pris une telle importance. Comme le grand remède à tout. Et c'est l'imaginaire qui nous empêche d'atteindre la finalité. Je crois que ça, il faut bien le saisir. À cause de cela, il faut nécessairement lutter constamment contre cet imaginaire pour redécouvrir le sens de l'intention de vie, le sens du choix, le sens de l'imperium. Nous l'avions vu, ça. Ces trois grands actes qui structurent toute notre vie morale. L'intention de vie, l'élection des moyens, le choix de l'ami. Et l'imperium fait ceci, qui exige de nous un éveil très grand de l'intelligence pratique et de la volonté. L'imaginaire, en empêchant l'intelligence pratique de se développer, supprime en nous le point de vue de la volonté. Le grand mal d'aujourd'hui, chez la plupart, de beaucoup, ils ont beaucoup de générosité et plus du tout de volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des élans généreux, mais ça ne tient pas. La volonté, c'est de durer. On a des ambitions énormes de se donner totalement au Seigneur. Il faut dire, ah, la vie religieuse, c'est trop dur. Mais c'est pour ça qu'il y a, au fond, aujourd'hui, une espèce d'opposition vis-à-vis de la vie religieuse. Parce que c'est duré, la vie religieuse. Alors on aimerait mieux une spiritualité d'arbre à vent, sans la taille du Père. Parce que la vie religieuse, c'est la taille du Père. Alors, l'arbre à vent va comme je te pousse. Les fruits sont tout petits, mais il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de branches. Ça fait du bruit, surtout quand il y a du vent. Alors c'est quelque chose d'étonnant. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus séduisant. Eh bien, l'acquisition de la prudence, c'est pour permettre cette victoire contre l'imaginaire et laisser libre cours à l'intelligence pratique. Notre intelligence pratique est faible et elle a besoin de se fortifier. Et elle se fortifie par cet habitus qu'on appelle la prudence. Ça s'acquiert. On devient prudent. Mais il faut être très attentif pour ça. Parce qu'on ne devient pas prudent sans tenir compte de ce que c'est que la prudence. Il faut faire des actes qui nous orientent vers notre fin. Il faut faire des actes de choix. Il faut faire des actes d'impérium. Tous les jours, vous en faites. Mais soyez attentif à ça. Tous les jours, le lever. Allez, lève-toi tout de suite. Si, au contraire, vous tardez 5-10 minutes, c'est fichu. Vous n'avez pas fait un acte d'impérium. L'acte d'impérium, c'est assez rude. Hein. Faut aller contre les descentes, contre les dégringolades, pour monter le courant, l'impérium, le choix, un acte d'obéissance. C'est un choix. Tous les jours, un acte d'obéissance, bien concentré, bien dense, bien conscient, tous les jours, dans la prière, une offrande de tout nous-mêmes. L'intention de vie. Tous les jours, faites des actes en vue de dépasser l'imaginaire. Mais vous n'y songez pas assez. Vous voyez, un petit examen philosophique avant l'examen de conscience spirituelle. Tous les jours, au noviciat, un petit examen philosophique. Combien d'actes j'ai fait aujourd'hui pour acquérir la prudence? Alors, comme ça, vous arrivez. Parce que ça s'acquiert de l'intérieur. Hein. Moi, je ne peux pas vous donner la prudence. Je peux vous indiquer les tournants. Mais ici, déviation. Le matin, c'est sûr, au réveil. Tous les jours. À la place de... Oh, encore ce réveil, je suis fatigué. Ça, c'est pas un acte prudentiel. L'acte prudentiel, c'est se réveiller dans la joie. Et ça se commande pas. Ça se commande. On se réveille dans la joie, on se réveille du bon pied. Si vous réveillez du mauvais pied, encore une fois, pourquoi se lever à 6 heures, vraiment? Enfin, si on mettait 6h30, ce serait tellement mieux. Et même 7 heures en hiver, le soleil n'est pas encore levé. On devrait être un peu plus selon la nature. On est artificiel. Et le vieux Rousseau qui renaît en nous, Jean-Jacques qui dit pas, Jean-Jacques, il n'y a pas d'impérium. Hein. Levez-vous quand le soleil se lève, c'est tout. Et reconnaissez que l'hiver, il faut se lever plus tard, parce que le soleil se lève plus tard. L'été, on sait très bien. Alors on ferait une compensation, vous voyez. L'été, on teuf. Oui, c'est pas comme ça dans l'avenir, les vieux, c'est curieux. C'est le côté artificiel de la vie religieuse, oui, vu de l'extérieur. C'est le côté artificiel, oui, mais c'est peut-être le côté pour acquérir la prudence. La prudence est un dépassement du cycle solaire. C'est un dépassement du cycle solaire, parce que le cycle solaire ne vous fait pas acquérir le dépassement de l'intelligence pratique. Se lève parce que on nous demande ça. Donc c'est un acte d'offrande et d'obéissance et d'impérium. Si on est conscient, vous savez, simplement durant une année, se lever toujours à la même heure, se coucher toujours à la même heure, je vous affirme que votre intelligence pratique pousse au-delà de l'imaginaire. Si évidemment ça ne se fait qu'un jour sur deux, le résultat sera assez triste à la fin de l'année. Ce sera pas énorme. Si vous arrivez à le faire tous les jours, je vous affirme, c'est comme ça qu'on acquiert la volonté. Faut pas dire, c'est impossible pour moi, que moi je suis capricieux. Non. Parce que, aussi bien dans la vie religieuse qu'en dehors de la vie religieuse, on a besoin d'avoir la prudence. Et la prudence porte sur ces trois actes. L'impérium, le choix des moyens et l'intention de vie. Ça aiguille ça et ça donne une vision très claire. S'il n'y a aucun acte prudentiel, au bout d'un certain temps, on confond tout. Alors on fait selon son caprice. Et faire selon son caprice, c'est vivre selon son instinct. Un instinct peut-être génial. Peut-être. Vous êtes tous des génies en herbe. Peut-être. Mais le neuvième n'est pas fait pour développer le génie. Hein, n'oubliez jamais ça. Il est fait pour développer en vous votre capacité de vous donner, d'aimer. Ça fait ça en premier lieu. Et là, il faut être clairvoyant dans ce don. Bon, il y a la prudence. C'est très beau la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est la sagesse pratique. La phronesis, grecque. La sagesse pratique. Et la philosophie a commencé par ça. La philosophie a commencé ou par une réflexion sur le travail et conjointement une réflexion sur la prudence. Parce que je crois que le travail va exiger une réflexion sur la prudence. Et c'est souvent les deux combinés qui nous aident le plus. Il faut travailler. Si vous êtes fidèle aux heures du travail, personnel, tous les jours, vous acquérez la prudence. Et vous acquérez des mœurs de travailleurs. Par vous-même. Si au contraire, là encore, un jour sur deux, je flâne. Je sors de ma cellule pour voir s'il n'y a personne qui me demande d'aller à tel ou tel endroit. parce que je m'ennuie chez moi. Alors ça va pas. On accepte d'être seul. Si c'est trop difficile, on se met à prier pour éveiller en nous cette intention profonde de vie. Donc, examen de conscience là-dessus, sur ces trois actes, tous les jours, pendant le noviciat. C'est vite fait. Hein. Mais ça, c'est excellent. On doit acquérir la prudence. C'est utile. C'est utile jusque dans la conduite de l'automobile. Parce que dans la conduite d'automobile, beaucoup d'accidents arrivent à cause de l'imprudence. À cause du choix. Il faut des choix très subtils. Hein. Faut-il gratter, pas gratter cette voiture? Il y a un choix quand même. Hein. Je me souviens, j'étais comme ça à Paris avec quelqu'un que je ne connaissais pas beaucoup, qui ne me connaissait pas beaucoup. J'étais très pressé, je lui avais dit, je vais le plus vite possible, soyez prudente. Alors elle me dit, dernier acte imprudent que je fais, mon père, je choisis de passer. Heureusement qu'il n'y a rien eu. C'était très imprudent. Mais elle avait conscience que c'était imprudent. Donc c'est encore une prudence. Parce que de temps en temps, on peut laisser l'habileté passer devant. C'est imprudent. Un choix. Et quelquefois, ça existe, ça. Celui qui est prudent, par trop de prudence, devient imprudent. Ça existe aussi, ça. Ah non, vous m'avez demandé d'être prudent, ou je ne dépasserai jamais personne. C'est une imprudence folle de faire ça. Parce qu'on rate tout. Et le train, entre autres, qui nous attend pas. Donc c'est imprudent, parce qu'on a quand même réalisé quelque chose. Alors vous voyez, dans la vie pratique, l'aspect du travail, l'aspect de l'art et l'aspect de la prudence sont toujours un peu rivales. Et ça se voit tout de suite dans la conduite de l'auto. La conduite de l'auto est à la fois œuvre prudentielle et œuvre artistique. Et je vois toujours ça. Ça m'intéresse toujours de voir où la prudence domine, où l'art domine. Et c'est dans les bons choix, les moments périlleux, pas sur l'autoroute. Mais mis dans les petits sentiers, tout de suite. Alors vous ne posez pas trop le problème quand vous vivez hein, la chose. Le vécu fait le lien entre les deux. Parce que si vous réfléchissez trop, après coup vous pouvez réfléchir. Et après coup c'est bon. C'est ça l'examen de conscience. Je prends ça pour des quantités d'autres choses. Celui qui est à la cuisine, il y a l'art et la prudence. Parce qu'il faut que tout soit prêt à telle heure. Après l'Angélus. Parce que c'est après l'Angélus. L'Angélus n'est pas toujours à la même heure, mais c'est après l'Angélus que le repas doit se faire. Là, il faut qu'il soit prêt. Donc il y a à la fois l'art et la prudence. La question de la diversité des repas et des mets, art et prudence, mais constamment dans notre vie, art et prudence. Écouter un cours, art et prudence. L'art, c'est quand même d'être éveillé vers la recherche de la vérité. Alors c'est un art supérieur. C'est l'amour de la vérité. On prend des notes, c'est très artistique. Et puis, la prudence, être attentif et réveillé. Avec la prudence va naître la justice. Le lien entre prudence et justice, ça c'est aussi très important. Nous avons besoin d'acquérir la justice. Nous ne sommes pas justes. Juste au sens justice, par nature. Pourquoi ? Nous savons très bien, nous. C'est qu'on a, à certains moments de la vie, très grand désir de posséder, arrondir notre bourse, posséder, par sécurité, un besoin de sécurité. Nous avons besoin aussi de nous exalter par les connaissances que nous avons. Alors nous écrasons. L'orgueil écrase. Il faut arriver progressivement à connaître celui qui est autre que moi et le respecter dans ses droits. Alors, je vous avais dit, là, il y a le jus, le droit. Tous ceux qui ont fait un peu de droit savent très bien ce que c'est. Ou plus exactement, ne savent pas du tout. Parce que quand on fait du droit, on n'étudie pas ce que c'est que le jus. On laisse aux philosophes le droit naturel. Qu'est-ce que c'est que le droit, le jus? C'est attaché à la dignité de la personne. Un chien n'a pas de droit. Alors évidemment, si ce chien appartient à une personne, il participe à la dignité de la personne. Et à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi de ce chien, parce qu'il y a le maître du chien qui apparaîtra tout de suite. Et si vous le maltraitez, il vous maltraitera. Et donc, il y a un droit. C'est pas direct, c'est à cause, comme un outil. Un outil n'a pas de droit, mais s'il appartient à quelqu'un, il participe de ce droit. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Vous n'avez pas le droit de prendre n'importe quel outil au bien commun. Si cet outil appartient à un artiste, un artisan, il louche dessus et dira, on s'est servi de mon outil. On l'a abîmé. Parce que c'est vrai, quand vous servez d'un outil qui n'est pas le vôtre et que vous êtes malhabile et que vous n'avez pas d'art du tout, vous n'avez qu'une générosité. Une générosité folle. Parce qu'on vous a dit, il faut faire ça. Là, vous vous précipitez avec n'importe quoi et puis vous essayez. Et vous vous servez d'un ciseau de menuisier comme pour enlever des écrous. Alors c'est désastreux. Parce que la vie c'est plus dur que le ciseau. Alors vous voyez ce qui se passe. Alors vous remettez ça sans rien dire, hein, juste en fait. Et l'artisan s'aperçoit de ça et dit, ah quoi, qu'est-ce qu'on a fait? Mais le respect des outils, c'est le respect, c'est encore la justice. C'est le respect à l'égard de la personne à qui ces outils appartiennent. C'est le respect au regard de la personne. Mais la personne, elle a toute une série de relations. Elle a toute une série de relations. Elle règne sur les outils. Il y a quelquefois des gens qui règnent sur les outils. Ils n'ont pas de royaume, mais ils sont des outils. Ça fait partie d'une royauté particulière. Et ils sont très jaloux de ça, dans la mesure où ils n'ont que ce règne-là. S'ils ont un autre règne, ils sont moins jaloux. Il faut faire grande attention à ça. C'est très curieux de voir le respect à l'égard des outils, le respect à l'égard des chaises, des tables. Vous voyez ça, le respect des tables en Sorbonne, hein. C'est extraordinaire. On marque n'importe quoi sur la table. Il n'y a encore rien de marqué sur cette table. On l'a respecté, tu vois. personne a des droits. Vous avez des droits. Mais en tant que religieux, on fait le vœu de pauvreté. Pour savoir ce que c'est que le vœu de pauvreté, il faut savoir ce que c'est que vos droits. Et vous abdiquez vos droits en face de Dieu. Mais si vous savez absolument pas ce que c'est qu'un droit, vos droits, qu'est-ce que c'est que le vœu de pauvreté? Vous ne savez pas. Vous le faites parce que ça fait partie de la vie religieuse, alors on le dit. Mais c'est très important de saisir, voyez, ce que c'est que ce droit, le ius. Le ius, le droit, c'est pas comme du tout du reste. Ça relève de la personne. La personne a des droits à l'égard des réalités. Il y a été physique, les réalités morales, il y a des droits. On a des droits. On a un droit sur un outil. Parce qu'on l'a acheté. Et il faudra, si quelqu'un prétend, lui, que cet outil lui appartient, vous direz, mais non, c'est moi qui l'ai acheté. Et je vous demande la quittance. J'ai acheté cet outil à tel endroit. C'est très... Ou bien, vous avez un droit, quand vous avez rencontré cet outil, perdu, dans les objets qu'on renvoie promener, dans les objets qu'on ramasse, mis à la poubelle, vous avez le droit de le prendre, cet outil. Et puis, vous le nettoyez, puis vous vous en servez. Il y a le droit d'usage. Un chien perdu. Plus de maître. Non, il appartient à qui? À la ville de Paris. Et la ville de Paris a des droits sur tous les chiens perdus. Mais comme il n'y a pas trop de surveillants, vous pouvez au bon moment le prendre. Et personne ne le réclame. Et au bout de 8 jours, vous pouvez sortir avec. Est-ce que vous avez un droit de coutume? Quelquefois un peu plus de 8 jours. Mais comme c'est curieux le droit, comment ça naît un droit? C'est très très curieux. Voyez, dites, on voit très bien l'argent qui permet de prendre des droits, des relations. C'est un jeu de relations par rapport à une personne. L'usage, on use, on a acquis cette chose. Eh bien, on a beaucoup de peine de respecter les droits de l'autre. Et quand il n'y a plus de respect des droits de l'autre, on est devant la jungle. C'est le droit du plus fort.
tissu de relation qui fait la dignité de la personne. Et ça explique tous ses droits. C'est très curieux, ça. Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, je retournerai à la mort, au sein de la terre. Alors, la dignité disparaît. Il n'y a plus aucune relation, plus aucun droit. Il y a toujours le droit à la vie. On a un droit à la vie. Qu'est-ce que c'est que ce droit à la vie? Le droit à la vie, c'est le droit à la nourriture. Si vous êtes affamé et que vous passez devant une boulangerie, vous êtes complètement affamé et passez devant une boulangerie, est-ce que vous avez le droit de prendre le pain et de le mettre dans votre poche? De le faire adroitement? C'est-à-dire au bon moment où personne ne regarde, est-ce que vous avez le droit de le faire? Je ne dis pas tout le pain, mais une partie du pain, de quoi ne pas tomber en inanition. On a le droit à la nourriture parce qu'on a le droit à la vie. On a le droit à la respiration. Et quand vous êtes dans un lieu complètement pollué, vous avez le droit à respirer l'oxygène. C'est le bien commun. Or, aujourd'hui, on entame ce bien commun. Et on vous supprime ce droit. Sans vous demander la permission. Alors, voyez, ça, c'est un problème politique. C'est un problème de communauté politique. Mais c'est pour vous montrer que le sens de la justice diminue. Parce que le sens de la justice devrait aller jusque-là. A-t-on le droit de faire une expérience scientifique en dehors d'un laboratoire? C'est-à-dire, en Australie, ou dans tel ou tel petit lieu, en sachant très bien qu'il peut y avoir des conséquences énormes pour l'humanité, sur la couche atmosphérique. On n'a pas le droit. C'est un orgueil collectif, la recherche de la science, pour dominer. C'est un manque de justice. La justice à l'égard du bien commun. La justice à l'égard des autres. Vous voyez, c'est très important de saisir ça jusqu'au bout. La justice, ça va très loin. Respecter l'autre dans sa vie, dans sa respiration, dans la capacité qu'il a de polluer l'air psychologique par toutes les propagandes, par toutes les affiches, au point de vue immoral. C'est un manque de respect à l'égard de l'autre. Donc c'est une faute contre la justice. Ça va très loin. Le cinéma, qui n'est plus moral, ni artistique, ni moral, on pollue l'air, on commet une injustice. On n'y pense plus du tout. Vous dites ça à quelqu'un qui... Vous dites, vous faites une faute contre la justice, même pas du tout. Et redécouvrir ce que c'est que la justice. On doit, chacun d'entre nous, redécouvrir ce que c'est que la justice. Ne pas voler, ne pas abîmer la dignité du prochain, ne pas la diminuer dans sa bonne renommée. Si votre voisin est vertueux, du moins il cherche à l'être, et à respecter l'autre, vous devez le respecter doublement. Parce que il a un certain sens de la justice. Et on doit respecter le voisin dans ce sens de la justice. Et plus il est faible, respecter ses droits, plus il est faible, plus je dois avoir le respect de l'autre. psychanalyste freudienne au moment de la loi de Simone Veil, écrite à Simone Veil en tant que médecin, en disant vous ne respectez plus ce que représentent les droits d'un tout petit qui ne peut pas réclamer, qui est complètement abandonné. En faisant ça, vous supprimez le point de vue fondamental de la morale, le respect de droit du plus faible. Et en supprimant ce droit, vous détruisez un pays. Parce que vous supprimez le fondement même des relations sociales, le respect de l'autre. Et vous commandez, vous commencez à vous mettre sur le point de vue de l'anarchie la plus complète qui soit. Ne pas respecter un tout petit enfant, c'est de fait coopérer à une anarchie internationale. C'est plus grave, voyez, moralement, de tuer un tout petit qui ne peut pas réclamer que tuer un homme. Moralement, c'est plus grave. Ça manque plus grand de respect. Et ça, je crois que c'est très important de sentir ça. Ça fait partie de la justice. Dans notre monde d'aujourd'hui, où l'injustice va si loin, le manque de justice, disons, qui conduit tout de suite à l'injustice. Parce que quand il n'y a plus de sens de la justice, c'est l'égocentrisme. Et l'égocentrisme, c'est se libérer de toute contrainte. Se libérer de toute contrainte, c'est nécessairement mettre un primat sur l'injustice. C'est laisser toutes les injustices possibles pour se libérer. Donc, il faut essayer de comprendre ce que c'est que la vertu de justice. Le respect de la dignité de la personne dans toutes ses relations et faire que le plus petit, le plus abandonné, le plus démuni passe devant. Mais quand vous n'avez pas de droit personnel, vous devez comprendre que c'est les autres qui doivent prendre votre défense. Paroles très fortes du pape là-dessus, hein, à propos du Liban. Quand on est en face d'une injustice visible, tous les peuples libres devraient se lever et dire non, parce qu'ils sont tous responsables. Et quand vous voyez un gosse qui est roué de coups sur la rue, est-ce que vous devez intervenir ou pas intervenir dans votre sens de justice? Est-ce que vous avez le droit de voir un tout petit, un gosse qui ne peut pas répondre, subir des ça, la justice. La justice, c'est respecter le droit de l'autre. Et quand vous êtes en face d'une injustice, vous n'avez pas le droit de coopérer. Mais il faut savoir, si justement, quelle est cette injustice. Ça demande d'être très intelligent dans l'ordre pratique. Vous voyez, la plupart du temps, les imprudences, donc les manques de prudence, les manques de jugement, on les voit dans cette intervention à l'égard d'injustice, au niveau social, au niveau communautaire. On voit tout de suite si quelqu'un est prudent dans la mesure où il intervient ou n'intervient pas. Parce qu'il y a des imprudences dans les omissions. Il y a des imprudences dans les interventions. Il y a beaucoup plus, aujourd'hui, beaucoup plus d'imprudence dans les omissions. Mais il y a quelquefois des imprudences dans les interventions. Vous voyez, la vertu de justice est une vertu complexe. Elle n'est pas simple du tout. Dans un monde comme le nôtre, qui est un monde où on ne sait plus ce que c'est que la justice. On ne sait plus. Parce que l'équilibre économique n'est pas la justice. L'équilibre économique peut être quelque chose de très important pour éviter les guerres, c'est sûr. Mais éviter la guerre à tout prix, est-ce la justice ? Je vous pose des problèmes pour que ça vous réveille dans votre justice. Est-ce que éviter la guerre à tout prix, est-ce que c'est une question de justice? Parce qu'à ce moment-là, on accepte toutes les injustices. Et au fond, c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui. Étant donné que la guerre est tellement terrible, avec les moyens de destruction qu'on a. On a l'impression que ça devient l'absolu. Éviter la guerre à tout prix. Alors, pour éviter la guerre à tout prix, on commet toutes les injustices. On assiste à des assassinats, on assiste à des génocides, on assiste à tout cela, si on ne peut pas intervenir. Parce que si on intervient, ce sera la guerre. Et alors, par en dessous, toutes les injustices se font. Et la dignité de la personne humaine n'est pas respectée. Et le respect à l'égard des plus faibles n'est pas respecté. Vous voyez, il y a un très très gros problème pour nous au point de vue éthique. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Il faudrait presque consacrer toute une année à la recherche de la justice. Dans tous ses méandres. Et vous voyez, le droit qui regarde le point de vue légal ne suffit pas. Ne suffit plus. Parce que appliquer la loi tout simplement, c'est quelquefois commettre des injustices énormes. Parce que la loi regarde des faits très communs, alors qu'ils se trouvent constamment aujourd'hui des situations limites. Et ces situations limites sont quelquefois terribles à résoudre. Elles ne peuvent pas se résoudre par des lois communes.
Et quel est donc le rôle du philosophe dans ce domaine ?
Le rôle de...
Du philosophe qui constate les dégâts d'un...
Le rôle du philosophe, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que la dignité humaine et ce que représente exactement le droit. Le droit de cette dignité humaine. Et jusqu'où ça va ? Dans des cas très complexes, il y a un problème philosophique, d'éthique, pas de métaphysique, d'éthique. Qu'est-ce que c'est que la justice ?